Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Jacques Couture.
Bonjour.
De Robert Rivard.
Bonjour.
Et de Franck Billot.
Salut.
Nous sommes à Montréal dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « Le bonheur est en soi ». En effet, le bonheur n'est pas quelque chose à l'extérieur de nous, malgré ce que beaucoup de gens ont tenté de nous faire croire à travers l'histoire. Le bonheur n'est pas dû à quelque chose d'extérieur comme l'amour ou les objets qu'on possède, des choses comme ça. Et fonder son bonheur dans quelque chose d'extérieur me semble être quelque chose qui mène au désastre. Alors aujourd'hui, on va parler de cette idée que le bonheur est à l'intérieur, et qui, après, il peut se propager à l'extérieur.
OK, ben c'est pas une mauvaise idée comme sujet. On dit souvent que les gens, justement, si on parle des relations amoureuses, par exemple, ils ont tendance à chercher leur douce moitié, leur sœur, leur âme sœur et tout ça. Là.
Flamme jumelle.
C'est ça, exactement. Donc, ça implique un certain manque ou une certaine lacune de leur perspective, parce que si tu cherches à te compléter, ça veut dire que tu étais complet en partant. Eh bien, ça semble être dur, une ligne dure de pensée, il faut y réfléchir, parce que si on explore des choses comme une pratique quotidienne, de prendre soin de soi, de méditer, peut-être de poursuivre certaines traditions comme les traditions, dans mon cas, taoïstes, ou d'autres traditions riches en la culture énergétique, eh bien, on va pouvoir trouver une alternative à se sentir vide ou incomplet et un peu de faire un pied de nez à cette réalité externe qui est toujours en train de raconter qu'on a besoin d'elle et puis que c'est elle qui doit être dans notre vie pour nous compléter, etc.
Bien, c'est à savoir si en soi nous parvenons à être suffisamment bien avec soi-même, de s'aimer. Moi, tout de suite, je vois une équation directe. Lorsque des moments où je vais pas bien, où je me sens plus déprimé, je me dis, il y a quoi? Je m'écoute pas assez. Au-dedans de moi, je suis insatisfait de moi-même ou il y a des volets, des côtés de moi que je n'apprécie pas. Puis, je pense que pour pouvoir m'amener à me sentir heureux et à avoir de la joie, je dois prendre contact avec cette énergie, le fait de m'aimer et d'apprécier ce que je suis et ce que je fais et avoir qu'est-ce qui me captive, répondre à mes désirs. Si je réponds à mes désirs convenablement, je pense que je me sens d'autant plus heureux et plus centré sur moi et sur le fait d'être plus en harmonie avec les autres et moins dans la dépendance.
Bon, moi, je suis déçu par rapport au thème de l'émission parce que j'étais persuadé que le bonheur venait de l'extérieur. Il y a un très célèbre publicitaire français qui a dit si à 50 ans, t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. Donc je me disais, au moins, ça me laisse encore 2 ans pour pouvoir encore réussir ma vie. C'est vrai, quoi, franchement. Hein? Bon, plus sérieusement, ben évidemment, ça, c'est sûr que c'est pas la Rolex qui va forcément faire que tu sois mieux, que tu sois plus heureux. Mais on en revient à ce thème qu'on a développé longuement dans l'émission, c'est que ça commence par soi, déjà. Et puis, ça commence par la connaissance de soi. Parce que pour identifier si t'es bien ou pas bien, déjà savoir qu'est-ce qui te rend bien, qu'est-ce qui te rend heureux. Alors ça peut être des biens extérieurs, et pourquoi pas, hein. Après tout, on peut avoir du plaisir à acheter un CD, écouter de la musique ou ce genre de choses-là. Mais par contre, c'est de bien distinguer ce qui vraiment va te chercher, va te remplir à l'intérieur. Et de quoi tu t'alimentes, en fait. Parce que ça peut être aussi bien des, des pensées, ça peut être aussi bien juste des ressentis. Des ressentis comme par exemple se sentir bien à un endroit sans raison particulière. Et ce qui est encore mieux, c'est si tu connais, bah, c'est de savoir pourquoi tu te sens bien dans cet endroit particulier, parce que tu vas pouvoir, peut-être pas reproduire, mais au moins avoir plus de chances d'être dans des contextes où tu sois en un bien avec ton individualité, avec ce que tu ressens. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure, là, à l'instant, c'est que ce soit par rapport à notre compagnon ou celle qui nous accompagne. Là aussi, c'est pareil. Si tu y vas avec les manques, c'est sûr que ce soit en amour ou que ce soit par rapport à des possessions, des biens matériels, c'est sûr que là, tu vas remplir un puissant fond, quoi.
Et c'est pas très évident aujourd'hui quand on regarde le monde. Moi, je regarde les jeunes beaucoup, comment ils sont élevés avec beaucoup de gadgets. Et parfois, ça m'irrite même. Par exemple, je vais au gym aujourd'hui. Il y a une femme qui est là, qui s'entraîne à chaque jour. Elle est toujours avec son téléphone cellulaire. Elle fait quelques mouvements. Dès qu'elle arrête, elle reprend son téléphone cellulaire puis elle commence à chatter. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intériorisation, il n'y a pas de... C'est comme si elle avait peur d'être seule. Et puis, je regarde les gens souvent qui marchent dans la rue en chattant. Tu sais, c'est un peu ridicule. Puis c'est un phénomène relativement nouveau. C'était pas comme ça il y a 10 ans, là. Mais même il y a 5 ans. Là, c'est comme généralisé au point où il y a des annonces à la télé. Et ça, je pense que ça fait écho à ce que tu dis. Tu sais, si les gens ont peur s'ils ne se connaissent pas, puis ils ont peur de se connaître, ils ne se donnent pas du temps pour se connaître, comment peuvent-ils être profondément heureux? C'est la question que je pose.
Il ne faut pas oublier qu'il y a un article que j'ai lu, parce que Steve Jobs, le fondateur d'Apple, lui, permettait pas à ses enfants d'utiliser des iPads et des iPhones. Hein? Donc, il devait avoir une raison derrière ça. Je pense que quand on regarde les portables, parce qu'on parle de ça en ce moment, c'est la mode, c'est la tendance et tout ça depuis quelques années, les cellulaires et tous les téléphones intelligents, tous ces trucs-là. C'est un peu la différence comme expérience dans ta vie de tous les jours. Je pense que c'est un peu la différence comme te tenir sur le haut d'une chaîne de montagne ou sur le haut d'un gratte-ciel dans une ville, si tu veux, puis avoir cette vision, hein, qui est habituellement une vision large, une perspective large. On voit une grande scène. Et c'est comparer ça à regarder ton cellulaire. C'est un peu ça, un petit peu, que tu vis quand tu vis dans un cellulaire. Tu as une perspective d'une petite boîte au lieu d'avoir la perspective d'une vie à grand déploiement. Donc, je ne vais pas renier l'utilité de certains de ces dispositifs-là dans un moment où des applications pratico-pratiques, là. Mais au point de vue où ce que les gens en se servent... tu sais, il y a même des statistiques à combien de fois les gens regardent leur cellulaire dans une journée. Ça fait peur.
Ouais, ben, tu vois, moi... Je fais un parallèle. Quand j'ai terminé l'université, j'avais une montre et j'ai décidé de l'enlever parce que je voulais être libre du temps. Et c'est un peu la même raison pourquoi je n'ai pas de cellulaire. Moi, j'ai pas d'iPhone, j'ai pas ces choses-là. Quand je sors de chez moi, j'ai rien à regarder. J'ai pas à... Sinon, c'est sûr que je le ferais. Là, si ça buzz tout le temps. Là, ça bip, bip. Alors, c'est Facebook, c'est tes courriels, ton téléphone. Il y a toujours un buzz. Moi, ma compagne en a un puis ça sonne tout le temps, même la nuit. Donc, n'ayant pas ça, je pense que les gens devraient réapprendre à se donner du temps où ils n'ont pas de gadgets comme ça sur eux, où ils peuvent réfléchir. Parce que pour moi, le temps de réflexion est très important pour ma créativité, mais pour ma paix intérieure aussi.
Ça me rappelle un petit détail en passant. Moi, depuis que j'ai lu là-dessus, je n'ai aucun dispositif électrique dans ma chambre à coucher. Tu ne trouveras sûrement pas de téléphone, une antenne. Ça, c'est une radio avec une antenne. C'est l'enfer. Tout gadget qui inclut un adapteur électrique qui fait un transformateur, là, tu sais, les cubes traditionnels pour toutes sortes de gadgets électroniques, là, AC/DC. Tous ces trucs-là, c'est très mauvais pour la santé. Ça devrait être, ça ne devrait pas partir de vos chambres à coucher. Mettez ça dehors. Même une lampe au forceps, là, mais à part de ça, là, pas grand-chose d'autre, vraiment. Électronique, c'est du smog. C'est du smog, c'est dormir dans le smog électronique.
Donc, un vrai bon vieux radio-réveil ou réveil qui...
Mêlez dans la cuisine à la place, comme ça, quand ça sonne, tu vas bien, bien avoir à te lever parce que vous faites arrêter l'alarme. C'est ça que je fais, moi.
Il faut que le volume soit élevé, quand même.
Ouais, tu l'ajustes, tu changes de réveil, s'il faut.
Donc, c'est bon de vous entendre, de savoir que vous avez découvert vraiment ce qui est bon pour vous? Peut-être est-ce que les gens le savent? Comment générer en eux ce bonheur par eux-mêmes? Les gens ont besoin souvent peut-être de lire tant de livres, psychologie populaire ou autre, pour avoir des méthodes, des savoir-faire. Je pense que c'est bien de s'inspirer de tendances ou peut-être d'avoir des moments de méditation, juste aller à la montagne, dans la nature. Moi, c'est toujours un appel que j'ai. Tout ce qui est nature, la végétation, les arbres, prendre l'air, marcher. Oui, c'est très bon.
Bien, nous allons faire une pause musicale avec Thomas Fersen et cette chanson qui s'appelle « Pégase ». Puis nous allons revenir avec ce thème « Le bonheur est en soi ».
Je voltais dans les ténèbres, à l'allure d'un convoi funèbre. Je goûtais l'air de la nuit, je ramais sans faire de bruit. Dans l'épaisseur du silence, lorsque je fus ébloui par une chaude incandescence qui émanait d'un beau fruit. Ma mère m'avait prévenu, méfie-toi des ampoules nues. Ne t'approche pas de ces globes qui mettront le feu à ta robe. Les papillons insomniaques y trouvent un aphrodisiaque. La mort est au rendez-vous, au mieux tu deviendras fou. Pas te consumer pour une de ces allumées. Ma mère m'avait dit Pégase, l'amour ça n'est que du gaz. Tu es un être nocturne, adorateur de la lune et des éclairages pâles que prodiguent les étoiles. Blanche et le dessin de ses hanches dans une auréole blonde. J'ai fait mes adieux au monde, à la lune vagabonde, belle comme une femme amoureuse, à ma raison qui me gronde. C'est ta tombe que tu creuses. Je voltais dans les ténèbres, à l'allure d'un convoi funèbre. Je goûtais l'air de la nuit, je ramais sans faire de bruit. Dans l'épaisseur du silence, j'ai vu ma vie défiler jusqu'au jour de ma naissance, lorsque l'ampoule a grillé.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Le bonheur est en soi ». Ça, ça veut dire aussi qu'une personne, quand elle a compris que le bonheur est en elle, elle est son meilleur compagnon, elle est son meilleur appui. Beaucoup de gens dans notre société se sentent seuls et ont vraiment une peur effroyable d'être seul. Alors, ils s'entourent de n'importe qui. Des fois, ce ne sont même pas des bons amis. C'est juste des gens qu'ils mettent autour d'eux pour faire du bruit. Un peu pas comme quelqu'un qui a peur la nuit, il va ouvrir sa lumière. Eh bien, il y a des gens comme ça qui mettent beaucoup de gens, beaucoup de bruit autour d'eux pour jamais avoir à réfléchir, mais je pense qu'un jour ou l'autre, on finit par taper un mur si on ne prend pas le temps d'être bien avec soi-même. Là. Ça fait écho à ce que vous disiez tantôt, d'être en amour avec soi-même, d'être tellement bien avec soi-même que même s'il y a des journées où il n'y a personne qui nous appelle, qu'on est seul, ben, on se sent bien parce qu'on a compris qu'on est un avec tout. En tout cas, moi, je me sens un avec tout, même si je suis séparé de chaque personne. Je suis quand même un avec le grand tout. Et j'apprécie ma solitude parce que ça me donne du temps pour écrire, pour faire mes projets personnels, pour faire de la beauté en tant qu'artiste.
Oui, tu allais parler. Oui, oui. J'allais dire que ce sentiment d'absolu, je peux dire qu'au fil des années, j'ai l'impression que ça fluctue. Il y a des périodes où je me rappelle où j'avais une plus grande facilité à juste me promener sur la rue et sentir un état de bonheur et sentir que j'étais indissocié du reste des gens autour. Je me dis, ah, vraiment, c'est extraordinaire. Je connais personne dans l'espace immédiat où je me promène. Puis je me sens profondément joyeux, complet, en harmonie. C'est comme si tous les gens qui sont là autour de moi, ce sont eux sous une autre forme. Ce sont moi, plutôt. j'ai inversé ma pensée. Puis donc, c'est extraordinaire comme sentiment de savoir qu'on est indissocié, que les autres sont nous, que l'on se reconnaît, qu'il y a une harmonie, de ne pas se sentir dissocié. C'est un grand sentiment quand on en comprend vraiment le sens, parce que justement, dans d'autres périodes de ma vie où je me suis senti seul, ou encore récemment, ou déprimé, je me dis, bien, il s'agit de se remémorer dans quel état d'esprit j'ai pu être pour pouvoir le régénérer, le recréer cet état-là. C'est un état merveilleux. Comme en faisant l'amour aussi, on peut retrouver ce même état-là avec la personne à qui on est, là où les personnes, parce que c'est sûr que je ne fais pas souvent d'orgie, mais si c'est l'occasion, c'est encore mieux. Mais ainsi, avec ces personnes-là, de sentir vraiment un état de bonheur complet en soi, justement, parce qu'on est avec d'autres, qu'on trouve qu'on a une jouissance profonde de soi-même parce qu'on se découvre et on se ressent à l'instant présent où nous vivons cette proximité et cette communion, justement.
Dans ce que tu viens d'évoquer, Jacques, il y a un degré de connexion, je pense. Comme tu l'as mentionné et qui est très vrai, il y a des périodes où c'est beaucoup plus facile que d'autres et même dans une même journée, on peut avoir des moments fabuleux où on est comme connecté au grand tout, connecté à son Dieu intérieur, enfin appelez ça comme vous voudrez. Et c'est vraiment, c'est assez magique. C'est magique, mais c'est pas quelque chose, forcément évident à reproduire sur commande. Parce qu'il y a quand même une part de magie, c'est peut-être ça la beauté de la chose, c'est que même si tu peux t'entraîner comme tu vas à la salle de sport, c'est assez difficile d'aller des fois chercher cette espèce de moment divin là où on touche le sublime et pourtant on n'a rien fait de particulier. Et ça, c'est vraiment génial. Mais encore une fois, ça fait partie quand même. C'est un petit peu comme l'inspiration. Des fois, tu es très très inspiré, les idées viennent super bien, ça c'est fluide, ça coule, tu te sens vraiment connecté. Et puis, il y a d'autres moments où c'est, pourtant, t'es bien, t'as pas forcément de tracas particulier, et puis, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas une formule mathématique qu'on pourrait appliquer à volonté, ou une espèce de méthode, même si d'avoir comme une certaine, comment pourrait-on dire, discipline, ou une certaine régularité dans ce que l'on fait, dans nos activités, tout en laissant place un petit peu à l'imprévu aussi, ça permet de se rapprocher parce qu'on sait que, se connaissant bien ou se connaissant mieux, qu'on a plus de chances, en faisant telle ou telle chose ou en lisant telle ou telle chose, d'être plus proche de notre bonheur.
Ben, moi, j'aimerais ajouter une chose. On parlait tantôt d'être heureux par soi-même. Quand on pense quelle sorte d'activité où je me retrouve à oublier le temps, ou le temps devient une chose qui passe très rapidement. Ça revient un peu à la fameuse expression de Joseph Campbell, l'Américain, qui a dit « follow your bliss », on en a déjà parlé. « Follow your bliss », suivre sa béatitude, suivre ce qui, dans notre vie, nous anime et nous inspire, et qui nous fait justement nous retrouver à une place où ce que le temps, et puis on parle pas d'un temps augmenté ou enrichi par des substances, on parle vraiment dans le naturel, où ce qu'une activité ou des activités nous amènent vraiment à oublier l'horloge, et puis la première chose qu'on sait, c'est que ça fait 3 heures qu'on fait le truc, et puis il nous manque du temps peut-être encore pour le compléter. Quand on arrive à une place comme ça, parce qu'on a pris le temps, de baisser le bruit, de baisser la télévision, peut-être même d'éteindre puis de mettre la télévision dehors et de faire de la place au catalogue des possibilités devant vous de ce qui vous intéresse. Et si vous ne savez pas, ben commencez à explorer, mes amis. Explorez. Il y a plein de ressources, il y a plein de choses qui existent maintenant. D'ailleurs, Franck connaît et a déjà parlé des ressources des organisations qui permettent l'accès à des choses créatives ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu l'indice pour être heureux, parce qu'une fois qu'on est comme ça, on a beaucoup plus de solidité. On peut, posséder nos victoires par nos réalisations et avec ça, bâtir l'estime de soi qui va en harmonie avec cet amour de soi, etc., etc.
Encore faut-il connaître ses passions. Et moi, je suis toujours surpris de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, ou ils ne s'autorisent pas à savoir. Moi, j'ai de la misère à comprendre, parce que dès mon enfance, je savais que j'aimais la bande dessinée, après ça, l'art, la peinture, la musique, etc., toutes ces choses-là. Et « follow your bliss », ça, moi, je l'ai toujours suivi, et ça fait en sorte que mon bonheur est très, très fort, parce qu'il est ancré sur quelque chose d'intérieur. On ne peut pas m'enlever mon œuvre. Mes idées sont à l'intérieur. Tout ce qui fait que je suis riche, vraiment, dans mon cas, c'est toutes des choses qui sont à l'intérieur de moi. Et c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très riches, mais enlèvent-leur leur château, leur compte en banque bien, bien garni. Est-ce qu'il y a un bonheur en dessous de ça? Je sais pas. C'est pas toujours évident. Alors que dans mon cas, il y a presque rien à enlever. Et donc, moi, je suis d'accord avec toi, Robert. Savoir sa passion et la suivre, je pense que ça mène directement à l'intérieur, ça mène en soi, et puis ça nous permet de nous centrer. Et quand on est centré, ben c'est plus facile, je pense, de rester sur sa voie. Parce qu'une fois que tu es sur ta voie, tu es centré, ben s'il y a des activités ou des gens ou des épreuves qui veulent te décentrer, ben tu reviens vers ta passion. Moi, je me dis, même si j'étais complètement déprimé puis que j'étais en dépression, ben j'écrirais un livre sur le sujet. Puis ça me ferait remonter comme une ballonne à l'hélium. Parce que ça me rend heureux de créer, ça me rend créatif encore plus. Donc, c'est impossible pour moi d'être déprimé.
D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Nicolas. C'est que moi, je trouve, enfin, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Et c'est comme ça que j'ai fait mon blog Québec Inspire. C'est souvent par rapport à des downs, par rapport vraiment à des situations difficiles dans la vie, où par exemple, ça peut être perdre un emploi, perdre un ami, ou avoir des proches qui s'en vont, enfin bref, qu'importe tes raisons. Et c'est justement, c'est vraiment des sentiments qui ne sont pas agréables à vivre. Par contre, comme ils vous connectent avec votre état de fragilité, le fait d'être connecté à cette fragilité, une fois cette fragilité transformée, dans le sens où on se dit, oula, ça va pas bien, et ben justement, je vais en profiter pour rebondir pour que ça aille mieux. Et ça, là, c'est, je trouve, assez magique, parce que la création, alors que ce soit peinture, musique, vidéo, écriture ou qu'importe, c'est vraiment de merveilleux moyens pour rebondir et aller de l'avant. Mais par contre, on en revient toujours à la même chose. Ça sous-entend à la base de connaître ce qui nous fait vraiment, ce qui nous anime vraiment et ce qui nous fait vraiment vibrer.
Bien, nous allons en profiter pour faire une pause musicale avec une chanson qui s'appelle « À l'intérieur ». Puis nous allons revenir après la pause avec ce thème « Le bonheur est en soi ».
Regarde à l'intérieur. trouver ailleurs ce que toi seul fais naître. Tu es ton propre esclave, tout comme ton propre maître. Dans ta quête du bonheur, d'un avenir meilleur, as-tu regardé au fond de ton cœur, sans haine et sans peur, vraiment ce que tu es? Ce que jouent les ondes, ce que la télé montre, est-ce la seule vérité? Ou bien celle d'un monde qui nous en vend sa propre idée? Au-delà de ce que l'on voit, que l'ombre de ce que tu es, qu'en fait tu nous livres. Les icônes des posters, toutes ces chimères au parfum qui enivre, valent-elles vraiment la peine qu'on les suive? Au-delà de ce que l'on voit,
sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Le bonheur est en soi ». Ce thème s'oppose brillamment à l'effort, au travail, à l'argent. D'une certaine manière, ça fait un pied de nez à toutes ces choses parce que on s'en cache pas aujourd'hui, c'est un peu une preuve de bonheur que d'avoir de l'argent, d'avoir un travail. Puis si t'en as pas, ben t'es un paria ou t'es un loser. Moi, n'ayant pas travaillé pendant très longtemps, j'ai réfléchi beaucoup à ça. J'étais pas très préoccupé par ce que les autres pensaient de moi, mais je l'ai bien senti que pour eux, j'étais un perdant parce que je travaillais pas. L'or, ça vaut pas grand-chose pour quelqu'un qui pense vraiment business. Mais toutes ces années, moi, j'ai construit quelque chose en moi qui fait que je trouve qu'aujourd'hui, je suis solide. C'est-à-dire que on pourrait rire de moi, ça ne m'affecterait pas autant que quelqu'un qui va vraiment faire attention à ce que les autres pensent et qui va toujours y penser et puis qui a construit son bonheur sur tout un réseau de choses extérieures à lui. Moi, il n'y a pas grand-chose qu'on peut m'enlever parce que c'est assez solide et j'aime cette idée d'être indifférent, une sorte d'indifférence joyeuse envers le monde. Parce que moi, j'ai une phrase qui me revient toujours, c'est une phrase de Ulysse qui disait que pour être immortel, c'est oublier les humains et se faire oublier des humains. Donc, l'immortalité, c'est un peu vivre dans un temps éternel. Ça revient à cette idée du temps là, qui est là, ici, maintenant.
Mm. Oui, on peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi. Si je me le demandais, et je me le demande. Je me le demande dans le sens que on se doit de pratiquer une certaine authenticité, une certaine validation, pas par l'externe, mais par l'interne. Puis c'est là que une pratique comme une méditation ou une méditation active dans le sens, par exemple, comme Tinaktan ou bien Eckhart Tolle suggère, où ce que le respire est primordial et qui est le point de référence dans le moment présent. Toutes ces pratiques-là sont bonnes pour cultiver vraiment le point central de qui on est. Et c'est là que, quand, avec le temps, on vient qu'à faire la distinction entre tout ce cirque humain là, qui nous vend une salade tout le temps là, pour faire ci, faire ça, se procurer ci, se procurer ça, comme on dit tantôt. Donc, ça vaut la peine d'investir sur soi-même en premier et pas juste faire aller au vent des intentions des autres.
Ça, c'est absolument fondamental, ce que tu viens de dire, Robert. C'est fondamental parce que c'est
quoi, quelque chose... La partie d'Edith Piaf ou...
pourquoi pas. Non, le fait d'investir en soi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, qu'importe, c'est absolument essentiel parce que investir en soi, on en revient aussi à la connaissance de soi, mais d'investir en soi. Alors, investir en soi de multiples façons, par le fait de créer, de lire. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources aujourd'hui. On a cette chance avec Internet d'avoir beaucoup de ressources, de e-books, de PDF, de documents. Tu citais Eckhart Tolle. Il y a plein de conférences d'Eckhart Tolle qui sont tout aussi passionnantes les unes que les autres. Et c'est cet investissement en soi versus l'investissement dans d'autres choses beaucoup plus matérielles. Mais si on veut y aller, si on veut matérialiser, il faut commencer par la base. Les gens qui sont capables de créer de la richesse, c'est que dans leur fort intérieur, ils sont convaincus d'être riches et de pouvoir générer des millions de l'argent. Mais par contre, ça prend quand même une certaine notion d'effort. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais quand je parle d'effort, c'est de l'effort sans avoir l'impression de fournir des efforts. Exemple, si tu crées une œuvre, que ce soit une peinture ou une musique, bon, tu peux la voir du premier coup, la musique géniale ou le hit qui va faire des millions de ventes, mais ça peut être aussi un accouchement qui se fait sur des mois, voire sur des années. Hein. C'est pas rare d'avoir un premier album qui a nécessité 2 ans, 3 ans de maturité, ou que ce soit d'autres œuvres. Donc il y a quand même d'effort ou pas d'effort, prenez-le comme vous voudrez, mais c'est surtout d'avoir aussi une attention à ce que l'on fait, à ce que l'on est et à ce qui nous plaît, ce qui nous recentre. Et ça, même si ça peut paraître un petit peu écarté du sujet, ça nécessite vraiment d'être centré malgré toutes les perturbations, on va dire, extérieures qu'il peut y avoir. On évoquait tout à l'heure le téléphone qui sonne, tous les stimuli extérieurs de la publicité, des annonces, du Facebook et compagnie. Et ça, c'est assez quand même déstabilisant et ça nécessite vraiment de se recentrer. Et je crois que c'est ça le défi, c'est d'arriver à avoir une espèce de constance par rapport à tout ça. C'est un défi, mais ça mérite vraiment d'être quand même focusé là-dessus.
Et j'aimerais ajouter, tu parlais de l'Internet, il y a plein de techniques. Quand tu dis ça, ça me fait penser à certaines techniques de respiration favorite qui sont des courtes méthodes pour se recentrer à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, quand on est vraiment dépassé ou qu'on perd notre point de centration. Il y a une chose que j'aimerais ajouter qui est peut-être un petit peu parallèle. Tu sais, il y a des choses qui se manifestent dans le monde religieux. Maintenant, je ne suis pas un homme religieux personnellement, mais on ne peut pas non plus oublier les réalisations sous le comment on dit ça? L'auvent de la religion, sous ce chapitre-là. Et il y a des gens qui perdent leur vie pour trouver le bonheur ou un bonheur par l'entremise d'une approche complètement différentes, parce qu'on pourrait dire, des gens qui nous écoutent pourraient dire, ouais, mais c'est des gens qui sont égoïstes qui parlent, ou des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Et puis, on a déjà fait le procès de ça, dans le sens que si tu ne penses pas à toi, ben, tu ne peux pas aider ton prochain non plus. Donc, tu n'as pas un avantage à t'oublier. Ceci étant dit, parfois, on peut trouver vraiment notre voie, notre bliss, d'une manière différente. C'est celle d'être épuché que je vais faire...
Scandale?
Oui, je vais faire rendre inconfortable certaines personnes, mais c'est d'être de service. D'ailleurs, d'être de la position du plus haut service que tu peux trouver dans ta voie, dans ton cheminement. Autrement dit, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour être du plus haut service à moi, qui est le tout, qui est la création, qui est l'ensemble de tout. Autrement dit, c'est peut-être pas une contradiction. Souvent, ça vient sous l'aspect religieux. Mais en réalité, vu qu'on est une parcelle, une individuation de tout ce qui est, être du plus haut service à tout ce qui est, c'est d'être en même temps au service de soi.
Oui, parce que le grand tout se trouve en soi. La relation, je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la religion, ça a été détourné. Parce que quand on regarde, en fait, beaucoup de paroles de sagesse de Jésus ou d'autres maîtres, il n'y a pas de notion de religion. Il y a des notions de spiritualité, mais il n'y a pas de notion de religion. Par contre, les gens, comme ils le mettent systématiquement, et c'est là où le bât blesse, mettent systématiquement le Dieu ou le divin ou tous ces aspects-là à l'extérieur, et ça c'est quasi systématique, quelles que soient les religions, ils ont oublié en fait que ceux qui ont, je pense par exemple aux paroles de Jésus, je les ai pas en tête, mais il y en a une pléiade qui sont en fait qui ne mentionnent aucunement le dogme, le fait de construire des bâtiments, enfin tout ce qui est en relation avec les dogmes. Quand on regarde bien, c'est sorti du dogme. Et c'est ça qui en fait a perturbé, et donc comme on a mis à l'extérieur, alors. Il y a des gens, je pense, alors, des anticonspirationnistes me diront que oui, t'exagères, tu vois des conspirations partout, mais je pense que la religion a été un merveilleux outil pour ceux qui ont voulu dominer les hommes. Parce qu'ils ont, comme ils ont sont dit, on va mettre le Dieu à l'extérieur, donc les humains vont constamment chercher à l'extérieur, et donc de ce fait, ils vont être déconnectés d'eux-mêmes, et ça va être beaucoup plus facile pour les manipuler. En tout cas, s'il y avait eu un esprit retors, je pense qu'il aurait pu avoir cet état d'esprit-là, parce qu'en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi, on en a parlé de maintes fois avec la politique.
Ben, donc, on peut penser que l'Église a plonger le monde dans le Moyen Âge en brûlant la bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est voulu par ces gens qui veulent nous diviser, diviser pour régner. Je ne crois pas que l'Église, autant que l'État, désire que nous soyons un avec tout. Et la preuve, c'est dans les années 60, quand les hippies sont arrivés avec cette pensée qui est très sage. Ils se sont fait taper dessus, ils se sont fait tous les drogues qui amenaient ces États. De béatitude ont été bannis, ont été rendus illégales, il y a eu de la désinformation. Et aujourd'hui, les gens, souvent, ne font pas la différence entre, par exemple, les drogues psychédéliques et les drogues dures, le crack, la cocaïne. Ils ont tout mis ça ensemble pour mélanger les gens, pour nous emmener dans la confusion.
Oui, bien moi, là-dessus, si je reprends ce que vous dites, je vois ça comme une sorte de cercle vicieux. Dans le sens, au départ, nous, la plupart des gens qui écoutent l'émission ont un travail, on a une tâche auquel on s'investit, peut-être de gré ou de force ou quoi que ce soit. Je parle d'un travail, souvent, va nous affaiblir, nous rendre faibles. Le cercle vicieux que je voulais dire en essayant de dire ça rapidement, c'est que on est affaibli, on se réfère à quelque chose, une religion qui, pour essayer d'avoir un réconfort, un appui, quelque chose. Peut-être j'y reviendrai en seconde partie d'émission parce que c'était un petit peu plus élaboré que je pensais, ce que je voulais dire.
Très bien, on va faire une pause musicale avec La Bottine Souriante et la chanson qui s'appelle La Montagne du Loup. Puis nous allons revenir avec ce thème, Le bonheur est en soi.
Sur la montagne du loup, je suis pas capable. ai demandé qu'avez-vous à pleurer. Je lui ai demandé qu'avez-vous à pleurer. Quand j'avais su gagner, je lui ai compliment trouvé, je suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver. Arrive à l'autre monde, vise à tout massacrer. Arrive à l'autre monde, vise à tout massacrer. C'est bien qu'est à la porte, pour me laisser entrer, je suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver. Saint-Pierre qui est à la porte, veut pas me laisser entrer. Saint-Pierre qui est à la porte, veut pas me laisser entrer. Car ils m'ont demandé, qui est de vous maïquer, je suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver. Car il m'a demandé, êtes-vous marié? Car il m'a demandé, êtes-vous marié? J'ai bien cherché partout, j'ai pas pu m'en trouver, je suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver. J'ai bien cherché partout, j'ai pas pu m'en trouver. J'ai bien cherché partout, j'ai pas pu m'en trouver. Vous sentez le merci, dit tant, j'ai pour marié, je suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver. Vous aurez jeune fille quand j'ai vous marié. Vous aurez jeune fille quand j'ai vous marié. Car la montagne des filles, c'est d'être mon enragé. Je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable. Sur la montagne, je ne suis pas capable d'y arriver.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Le bonheur est en soi ». Cela amène à développer une philosophie pour contrer la société qui amène à travailler à outrance. J'ai justement fait un vidéo YouTube cette semaine sur le sujet du travail, parce que pour moi, le fait qu'on travaille tellement aujourd'hui, c'est sûr que ça nous décentre. Et moi, j'ai vécu justement un moment dans ma vie où je n'ai pas travaillé, où j'avais tout mon temps, et maintenant je travaille. Et puis, je vois à quel point c'est difficile d'être centré. J'y arrive parce que j'étais tellement habitué de le faire, mais ceux qui n'ont pas eu cette chance, par exemple, qui ont fini l'école et qui se sont mis à travailler tout de suite et parce qu'ils avaient des dettes ou il y avait beaucoup de choses à payer, je crois que c'est très, très difficile de rester centré puis d'être heureux parce que je suis sûr que beaucoup de gens pensent qu'ils sont heureux, mais en réalité, le sont-ils vraiment? Si on leur enlève ce travail, qui prend souvent 80% du temps, est-ce qu'ils vont être heureux à regarder un mur blanc?
Mais évidemment, le travail, c'est parce que c'est un lieu aussi, de la manière dont il est conçu, qui se présente encore de nos jours. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de travail à la maison. Avec les systèmes informatiques, on peut avoir un accès chez soi, etc. Mais en même temps, pour ma part, en tout cas, je trouve une motivation de savoir qu'il y a un réseau de collègues, de gens que j'apprécie, que j'apprends à connaître. Puis il y en a une, en particulier une collègue. Je pense que depuis que je suis à cet endroit-là, ça fait 4 ans là, à mon emploi actuel, puis
On a tellement de fous rires, de moments extraordinaires, mais c'est sûr parce que c'est bon de faire son délinquant, de sortir de quand on est tellement pris, emprisonné un peu par les tâches à faire, surtout quand il y a une charge opérationnelle, tu sais, qu'il y a des attentes de toutes sortes, de rendement et tout. Moi, je me dis, j'ai le goût souvent, au moins. Je suis pas trop vérifié en ce moment sur ce que je fais, sur mon niveau, les quantités de dossiers que je traite ou non. Mais quand on est vraiment, c'est très, très serré, il y a des gestions parfois, ou des gestionnaires, que c'est, sont machiavéliques à ce niveau-là. Mais il me semble que tu as fait, mettons, 3 dossiers de moins que ton collègue. Comment se fait-il? C'est tout un drame. Non, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mais en même temps, moi, je me dis, ce qui importe, c'est la vie, c'est d'être heureux. C'est quoi ce travail-là? Si ça me rend malheureux, souvent, c'est le cas. Mais les gens se sentent tellement pris parce qu'il y a des difficultés à trouver un emploi, etc. Donc, souvent, les gens vont poursuivre quelque chose, une tâche ou un travail qui ne les sert pas bien, qui même les rend malheureux, pour ne pas être dans l'insécurité en contrepartie. Mais évidemment, si quelqu'un a un gros loyer de chaque mois à 1 500, comparativement à quelqu'un qui en a un à 300, 400 ou 500 $ par mois, bien, son niveau d'insécurité ne sera pas le même. Mais en même temps, je disais tout à l'heure, c'est quoi cet emploi-là qui va nous rendre maussades, qui va nous vider énergétiquement? Souvent, c'est le cas. Les gens vont avoir besoin de se divertir tellement, soit par l'alcool, de toutes sortes de façons, pour en sortir de cette difficulté émotionnelle-là associée au travail, ou par des nouvelles croyances, ils ont vu un article où ils connaissent des gens, on prend le métro tous les jours, c'est rendu incroyable cette propagande, mais c'est pas la seule, des propagandes des religieuses, je sais même pas c'est quelle secte au juste, chrétienne ou autre, sont là avec leurs dépliants, mais je suis tellement content de me rendre compte à tous les jours que personne les prend, leurs foutus dépliants, c'est comme un peu le comment on les appelle, ceux qui font du porte-à-porte, les témoins du Jéhovah, ça ressemble à un genre de avec des slogans un peu fin du monde. Mais ce que je veux dire par mon cercle vicieux pour terminer sur cette lancée, c'est que les gens ont besoin, donc sont épuisés, ils cherchent un sauveur, une explication, un réconfort. Et ça mène où, finalement? Sinon qu'en soi, moi, j'ai le goût de m'évader totalement, de tout renoncer à tout, de tout laisser, refaire une nouvelle vie à cultiver des carottes. Je me dis peut-être que c'est ça un jour que je vais faire.
C'est une bonne idée d'ailleurs. Je pense que ce serait plus le bonheur serait plus proche de toi.
Ouais, c'est tellement bon les carottes aussi. Ouais.
J'aimerais citer une pensée de Buckminster Fuller à qui on doit la construction du concept, le concept du dôme géodésique qu'on a vu à l'Exposition internationale de Montréal en 1967, qui est toujours là d'ailleurs. Buckminster Fuller, on lui doit beaucoup d'inventions, même une particule qui est nommée après lui. Il dit qu'on doit se débarrasser de cette notion désuète et non validée que tout le monde doit être affairé à une genre de corvée. Tout le monde doit être occupé à travailler une genre de corvée, car de nos jours, une percée technologique, une personne sur 10 000 peut arriver avec une percée technologique qui peut changer la donne de toute la société et faire en sorte que cette percée technologique-là va pouvoir supporter tout le reste du peuple. Donc, on est rendu à une place qu'il faut vraiment changer ces pensées-là, parce que là, on se retrouve à quoi? Avec des inspecteurs qui inspectent les inspecteurs. Et on est en train de construire, à s'affairer des instruments qui permettent aux inspecteurs d'inspecter les inspecteurs. Alors vraiment, là, on est rendu dans un monde où ce que l'excès de travail, cette demande-là... J'ai même entendu, il n'y a pas longtemps, pas loin de mon environnement, un employeur qui voulait monter la donnée de la 37,5 heures par semaine à 40 heures par semaine. Qu'est-ce que c'est cette folie-là? On devrait vraiment faire un scale-down, une descente de la proportion de travail, non pas la montée. N'importe quoi qui s'oriente vers la montée de travail, sachez que c'est motivé par les mauvaises énergies. Pas dans le sens moral, dans le sens contraire à la vie. quelqu'un qui doit s'affairer constamment à 40 heures par semaine, là, à moins qu'il le fasse par le pur plaisir, puis l'énergie, puis l'adrénaline, puis il adore ça, vas-y fort. Là. Il n'y a pas de règle.
Mais ça, c'est 40 heures mais juste au travail, mais ça ne compte pas le retour à la maison, l'aller là-bas. Donc, tu peux rajouter des fois le double, juste à cause des déplacements. Non?
C'est un peu la pensée, ce qui supporte cette pensée de 40 heures semaine puis travailler fort, ces corvées-là, c'est un peu la pensée malthusienne, darwinienne, qui est encore où l'homme doit justifier, sa vie doit être justifiée par gagner sa vie. Là. Il doit faire un effort pour être justifié d'exister. C'est vraiment...
Ça remonte à longtemps, ça. Oui. Ça remonte même aux pythagoriciens, là, avec des philosophies, Aristote, des philosophies plus austères, et des philosophies de sérieux. Alors qu'à travers l'histoire, tous ceux qui ont eu des philosophies, comme les épicuriens, des philosophies joyeuses, de l'orgasme, du plaisir, ont toujours été tapés du pied, ont toujours été écrasés. Et c'est pas différent aujourd'hui. Hein. Les gens, je trouve, sont encore plus mindés que jamais à travailler. Mm-hmm. Même c'est une des caractéristiques. Là. Moi, je regardais la génération Z, génération X, et les plus jeunes aujourd'hui, ça a l'air que ce qui les caractérise vraiment, c'est qu'ils veulent travailler. Ils sont des entrepreneurs et c'est une grande qualité. Alors que pour moi, c'est le contraire.
C'est en fait, c'est le nouveau dogme. Enfin, c'est le nouveau dogme. C'est pas si nouveau que ça, mais c'est en fait, on remplace des dogmes. C'est-à-dire qu'on a remplacé le dogme religieux officiel par le dogme du travail et surtout le dogme matérialiste du profit. Mais en fait, ils ont deux points communs, les deux, que ce soit religieux ou le dogme de capitalo-matérialiste, c'est qu'en fait, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça place le divin, le bonheur à l'extérieur de soi. Donc c'est une quête sans fin à l'extérieur de... dans le domaine religieux, par exemple, ça va être de travailler toute sa vie pour aller au paradis. Et puis dans le dogme capitaliste matérialiste, ça va être de travailler toute sa vie pour avoir la retraite. Donc il y en a un qui est vraiment matérialiste, hein, c'est avoir la retraite tranquille, machin. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils travaillent comme des fous, et puis quand ils arrivent à la retraite, bah, généralement, ils ont déclenché un cancer, et donc ils meurent 6 mois plus tard. C'est à peu près le portrait. Donc, c'est le truc, c'est que on veut... Ce qui se passe, c'est que ceux qui gouvernent nos sociétés, ce ne sont pas des gens foncièrement heureux ou connectés au divin en eux. Sinon, d'une part, rares sont ceux qui feraient de la politique. Et donc, de ce fait, ils ne peuvent pas servir un système qui soit pour le bien des individus, puisque quand on prend les grosses machines politiques, toutes les mesures qui sont prises, sans exception, ne sont pas pour le bienfait des individus. Hein. C'est travailler plus, c'est payer plus, et puis c'est moins de services. Hein. C'est vraiment ce que l'on voit, que ce soit au Québec avec les politiques libérales, ou ce que l'on voit en France. Hein. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, et comme on a des gens qui savent plus vraiment quoi faire, non pas qu'ils soient stupides, c'est pas ça, c'est pas une question de bêtises intellectuelles, quoique c'est une question de gens qui servent une mécanique sans fond, qui fonctionne par la dette, qui fonctionne très très bien, et donc comme on est dans cette logique de dette qui est impayable, hein, on a vu ça avec la Grèce et avec tout le reste. Ouais. Donc du coup, on en revient à ce que tu disais, Robert, tout à l'heure, c'est-à-dire que en bas de la chaîne, ça va être l'employeur, l'employeur qui va dire bah, « moi, il faut revenir à 40 heures ou 45 heures ou 50 heures ou 60 heures ». Alors qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on nous a dit « la technologie, ça va nous permettre d'avoir une société de loisirs ». Mais là, on a complètement passé à côté de la traque.
Et se mettre contre ça, justement, c'est se mettre pratiquement tout le monde à dos. Moi, je l'ai vécu et puis je me suis retrouvé dans un coin toute seule parce que j'étais pas très bien compris, jugé par ma famille, par mes cousins, cousines, par le gouvernement qui voulait que je travaille. Donc, quelqu'un qui décide de fonder en lui son bonheur, sa sécurité, il doit s'attendre à recevoir des coups durs de partout et de ne pas être compris. Pourtant, ça, c'est la logique qu'on en parle aujourd'hui. On devrait travailler le moins possible. Moi, je pense aux Zoé. Les Zoé dans le nord du Brésil, ne travaillent pas plus que 2 heures par jour. Et ces gens sont beaucoup plus heureux que nous, sont épanouis. Ils vivent nus, ils font l'amour, ils se racontent leurs rêves, ils jouent. Pourquoi on serait pas capable de faire ça nous-mêmes? On dit qu'on est très évolué, mais pour moi, l'évolution devrait plutôt être dans le bonheur.
On est dans une société de domination et contrôle, hein, les amis. Donc, faut se souvenir que l'intention, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces êtres humains-là. Où sont-ils? À quel moment? Comment peut-on les situer géographiquement sur Google Maps à toute heure et à tout moment?
Et surtout, qu'est-ce qu'on peut leur vendre?
Hein? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut leur vendre? Qu'est-ce qu'on peut leur rendre pour tranquillement ils puissent se rendre malades?
Puis, comme aux États-Unis, leur amener une Bible là-dessus. Un gâteau avec la cerise.
Ça tombe bien. On finit bien l'émission. Ça va aller bien avec la chanson que j'ai trouvée, qui s'appelle « Dégénération » de mes aïeux. Bien, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Je voudrais remercier le Mouvement Jovialiste et Radio Centre-Ville de nous appuyer dans ce projet. Puis, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne semaine à tous.
Bonne semaine et bon week-end.
Bon, ciao.
Oui, bonne semaine à la prochaine.
Retrouvez-nous sur poposurlebonheur.com.
D'avoir ton petit lapin de terre.